Bonjour à toutes et tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Sur la route. Aujourd'hui, on vous propose une rencontre avec...
Je m'appelle Étienne Guillermaz, je vais avoir 40 ans cette année et je suis philosophe. Un mot un peu valise aujourd'hui, mais auquel j'essaye de redonner un sens premier à travers une émission radiophonique sur Déclic Radio qui s'appelle De la philo à la philosophie.
Aujourd'hui, il sera question, comme de par hasard, d'éducation populaire, de vulgarisation de savoir et de fascination pour le monde de l'image, de bourgeoisie, de monstres et de la figure du héros, d'avoir de la morale ou de faire du capital, du mythe du playboy philanthrope et celui de l'entrepreneur, de Belphégor, de Germinal, de romans feuilletons et puis de séries, de Michel Foucault, de Patrick Lelay, de philosophie et d'industrie, et surtout de repeupler notre imaginaire et puis de panique morale. Un entretien enregistré en mars sur Tournon-sur-Rhône. Bonne écoute.
Alors, mon parcours, il est déjà très particulier, parce que la philosophie, en fait, on y arrive un peu par accident. En fait, moi, j'ai commencé mes études universitaires en anthropologie. Et mon sujet de licence que je voulais travailler, c'était l'influence des rituels païens moyen-orientaux sur l'architecture et les sciences occultes médiévales. Autant te dire que j'ai eu énormément pas de succès auprès de mes enseignants. J'ai quand même réussi à porter le truc. Après, on m'a conseillé d'aller me faire voir ailleurs, donc j'ai quitté le campus de Grenoble. J'ai changé de discipline, je suis allé en littérature médiévale, en master. Et là, j'ai travaillé sur l'influence des poèmes des chevaliers de la première croisade sur l'amour courtois. Et là aussi, j'ai pas rencontré un franc succès. C'était quelque chose d'assez inhabituel. Et quand j'ai eu terminé mon master, à nouveau, on m'a demandé d'aller me faire cuire un œuf ailleurs. J'ai fait une longue pause dans mes études, parce que j'étais un peu fatigué. Et quelques années plus tard, je suis retourné au charbon, à Paris cette fois-ci, et en philosophie. Et alors, il y a un truc qui est très bizarre, c'est que quand on commence une année universitaire, il y a toujours le doyen de la fac qui vient faire un petit laïus, etc. Et là, le doyen nous explique que en philosophie, c'est toujours la même chose. Il y a 99% de gens raisonnables qui vont devenir des professeurs de philosophie, qui vont écrire de la philosophie. Puis il y a 1% d'illuminés qui vont vouloir être philosophes. Bon, le pourcent d'illuminés, c'était moi sur cette promotion. Et à l'époque, j'avais encore une idée très naïve de ce que c'était que la philosophie. Donc là, j'ai travaillé à l'époque sur les questions du transhumanisme, donc l'évolution auto contrôlé de l'humanité. Donc pareil, j'ai explosé en vol. Là, j'ai fait un burn-out, j'ai tout plaqué. Et le moment où je suis devenu philosophe, ça a été juste après ça. J'étais tellement épuisé que j'ai fait une tentative de suicide. Et en fait, au moment où je m'étais dit, là voilà, il me reste un livre de philosophie à lire que j'avais pas encore lu, c'était un bouquin de Sénèque, Les Lettres à Lucilius, alors que justement je travaille dans mon émission à Déclic. Et c'est là où je suis devenu philosophe. C'est à ce moment-là, parce que j'avais le choix entre la corde et ce que préconisait Sénèque dans cet ouvrage. Et les lettres à Lucilius, c'est comment on part d'un citoyen lambda pour en faire un philosophe. C'est tout le parcours initiatique. Et c'est ça qui a fait que c'est le moment où j'ai choisi de devenir philosophe. Et de vivre, d'ailleurs. Sinon, je ne serais pas là pour en causer. Et en fait, quand on regarde l'histoire de la philosophie antique, c'est que ça. Le philosophe, il choisit de devenir philosophe, c'est ça ou la mort. Le monde est tellement absurde, tellement violent, aliénant, que le seul moyen de s'en prémunir, c'est d'avoir tout perdu, de se retrouver au fond du trou. Et soit on finit de se laisser couler, soit on tape du pied là pour remonter, c'est ça la philosophie, réellement. Alors avant d'être à Déclic, j'ai fait une formation de conférencier gesticulant. C'est là aussi où ça a commencé un peu à mijoter, parce que... Donc j'étais un pur produit de l'université, avec un discours de jargon imbitable, sauf pour des doctorants, avec plein de bonnes idées, hein, mais incompréhensibles. Et cette formation d'éducation populaire, elle m'a permis ça, de vulgariser mon savoir. Et à force de faire ma conférence gesticulée un peu à droite à gauche, j'ai été repéré donc par la personne avec qui je co-anime de la philo à la philosophie, Anne-Catherine Barthelon, qui m'a dit « mais il faut que tu viennes parler de tout ça, c'est important ». Ça fait 3 saisons maintenant, on est en cours de tournage de la 3e, et je me rends compte que petit à petit, ça porte ses fruits. Il y a des gens qui découvrent la philosophie, loin de ce qu'on peut voir sur les plateaux télé et autres, où on n'a que de vieux hommes blancs qui viennent défendre la classe dominante. Ça aussi, hein, la philosophie est révolutionnaire par nature. Quelqu'un qui se prétendrait philosophe, mais qui défendrait l'ordre établi, n'est pas philosophe, jamais. De la philo à la philosophie. Ça, c'est devenu ma trademark, pour reprendre un mot de la perfide Albion. Mais c'est très important parce que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu troublé. C'est quand, voilà, quand on va en cours, on va en philo. Mais philo quoi ? Philosophie, philologie, on va en géo, vous voyez ? Géographie, géobiologie, et ainsi de suite. On va en maths, ouais, d'accord, mais les mathématiques, il y a des mots complets. Et si on garde que la première syllabe, ça ne veut plus forcément dire la même chose. Pour moi, c'est important de remettre aussi au cœur la philosophie, le mot en entier. C'est ce que ça veut dire. Le but de cette émission, de la philo à la philosophie, c'est de reprendre en fait ce que fait Sénèque. C'est-à-dire, on part d'un citoyen lambda qui va écouter l'émission, et on va en faire un philosophe, on va lui donner les clés. Et alors c'est ce que je dis dans l'épisode, on va dire prologue, l'épisode zéro, c'est que c'est pas le chemin à suivre, c'est un chemin. En philosophie, des chemins, il y en a plein. C'est une multitude de possibilités qui s'ouvrent. Là, ce que je donne aux personnes qui écoutent l'émission, c'est le chemin proposé par Sénèque. Mais après, il y a des tas de solutions. Ça peut être Épicure, ça peut être Platon, ça peut être Aristote, ça peut être Diogène le Cynique. On a des tas de modèles. Il y a des ouvrages que je cite régulièrement dans l'émission, comme l'ouvrage contemporain de Pierre Hadot, qui était un professeur de philosophie exceptionnel, qui s'intitule « Qu'est-ce que la philosophie antique ?», qui est un ouvrage très très accessible sur les grandes écoles de philosophie de l'Antiquité. Et ça, alors je peux l'assurer, il y a un avant et un après la lecture de ce livre. C'est formateur. Et ça donne un angle de vue sur les choses, et sur la philosophie, hein, vraiment radical. Et même, je recommande surtout la lecture de ce livre aux gens qui n'ont pas aimé la philo au lycée. Et qui ont trouvé que c'était incompréhensible, inaccessible, parce que c'est le cas. Le programme de philosophie au lycée, c'est 11 thèmes sur 3000 ans d'histoire humaine qu'on fait en 8 mois. Quand on va en faculté de philosophie, on le fait en 3 ans de licence. Et déjà, c'est trop court. Enfin, on ne peut pas. À mon sens, si je pouvais refaire tout le programme de l'éducation nationale, on ne ferait que la République de Platon, mais pendant 8 mois, on le poncerait à fond. Parce que je préfère qu'on ne maîtrise que cet ouvrage qui est quand même une pierre angulaire de la philosophie, et encore, en grattant la surface en 8 mois, mais correctement pour l'appliquer après dans la citoyenneté.
Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, on est en compagnie d'Étienne et on parlait juste à l'instant de son émission de radio de la philo à la philosophie. Il va maintenant aborder un de ses premiers, si ce n'est le premier, choc cinématographique. En l'occurrence, de La Belle et la Bête de Jean Cocteau. Retour à l'entretien.
La première fois que je l'ai vu, ça devait être en 93 ou 94, donc on était encore en pleine hype de La Belle et la Bête de Disney. Et en regardant le programme télé, je vois en deuxième partie de soirée sur France 3, enfin La Belle et la Bête. Et pour moi, j'étais convaincu que c'était le dessin animé. Et donc, je demande à ma mère de me l'enregistrer. Elle me dit, mais t'es sûr ? Je lui dis, bah oui, je vais voir La Belle et la Bête. Elle me dit, bah très bien, ok. Et moi, je savais juste que c'était le truc du moment, parce que j'avais pas vu de bande-annonce. Donc, je me retrouve devant ce film en noir et blanc. Je me dis, tiens, c'est bizarre, mais bon, pourquoi pas. Et pour moi, c'était La Belle et la Bête. Et quand j'en discutais avec mes copains et mes copines à l'école, clairement, on n'avait pas vu la même chose. Mais ah bon, bah, tu sais, avec la certitude que peuvent avoir les enfants, tu vois, on peut tordre de l'acier hein, sur la certitude d'un enfant. Hein, donc non, c'était ça. Bon, des années plus tard, j'ai vu le dessin animé, mais en pensant que c'était une espèce de copie coréenne au rabais. Et donc, ouais, La Belle et la Bête, c'est un truc qui m'a marqué. Parce que déjà, c'est un film qui a été tourné en 1944 sous l'occupation, enfin un peu en cachette. Les effets spéciaux de l'époque, le costume de la bête est juste impressionnant. Puis cet aspect aussi très surréaliste, avec le mobilier donc, qui est vivant, où ce sont donc, des bras de techniciens. C'est flippant quand même, hein, cette version de La Belle et la Bête. Mais c'est tout aussi un aspect qui, je trouve, n'y a pas dans le conte original, ni dans la version donc, de Disney, c'est l'aspect de l'avarice. de voilà du fils, donc du marchand, qui avec son meilleur ami dilapide la fortune du père au jeu d'argent, et donc se retrouve à vouloir non pas tuer la bête pour sauver Belle, hein, ça c'est complètement secondaire, mais c'est de piller le trésor de la bête pour rembourser leur dette de jeu. Et au final, bon, bah, ça, ils vont louper leur coup, hein, puisque la salle au trésor est piégée. Mais ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est intéressant. Alors après, j'ai pas lu l'adaptation littéraire, enfin le texte, pardon, d'origine de cette version du conte. Alors est-ce que c'est aussi dedans ? Ça, je sais pas. Mais ce qui est marrant, c'est que quand ils entrent dans la salle au trésor qui est piégée, donc c'est le meilleur ami qui rentre en premier, le piège se déclenche. Et au moment où la bête redevient humaine, lui se transforme en bête. Et qu'au final, la soif de l'or fait de nous, peut-être, voilà, des monstres solitaires vivant dans des demeures, certes gigantesques, mais seuls. Qu'il faut réapprendre notre humanité loin de tout ce qui est pécunier.
Matériel, pécunier, ouais. Mmh.
Oui, mais après, c'est quelque chose qui traverse toutes les histoires, tous les contes. Hein. On peut citer Midas, hein, bien évidemment. Et il y a une autre mythologie grecque. Alors là, dans le nom du personnage m'échappe, mais pareil, c'est un roi du Nil qui est obsédé par la richesse. Et il est maudit par la déesse Artémis, je crois, parce qu'il coupe un bois sacré. Et il est condamné à une faim insatiable. Donc il dévore tout ce qu'il trouve et il finit par se dévorer lui-même. Et cette autophagie, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, hein, où on détruit ce qu'on appelle les limites planétaires. Hein, y en a 8, on a détruit la 6e il n'y a pas longtemps, on ne pourra jamais le réparer. Mais on continue à dévorer, à se dévorer nous-mêmes aussi. Hein. C'est ce que je disais tantôt là, sur les questions d'exploitation de la classe populaire par la classe dominante. On est corvéable. On est des ressources. Là, les fringues que je porte, c'est du kiabi, c'est fait à l'autre bout du monde, certainement par des enfants. Voilà, donc j'ai du sang de partout, mais je ne le vois pas, donc ça va. Puis il y a ce discours aussi du mérite. Hein. Nous, on a gagné, donc on mérite. Eux, ils ont perdu, donc ils méritent. Voilà, sauf que la vie n'est pas une partie de Monopoly. On peut reparler vite fait de l'histoire du Monopoly, hein, qui était quand même un jeu créé par une femme, à la base, pour démontrer les méfaits du capital, enfin de la propriété privée, ça s'appelait Landlords à l'époque, et c'est racheté par les frères Parker pour une bouchée de pain, ils l'ont jamais cité, ils l'ont jamais payé ses droits d'auteur, parce que c'était une femme. Lundi prochain, hein, je suis en conférence là au bar associatif Le Point Commun pour parler des femmes oubliées de la philosophie antique. Et pourquoi on les a oubliées? Et c'est pareil, que la gente féminine nous adresse encore la parole à nous les hommes, depuis ce qu'on leur fait... Ils sont quand même bien sympas. Je suis pas sûr que j'aurai autant de clémence à leur place.
Nous sommes en compagnie d'Étienne, on parle cinéma, et donc d'images. Eh ben, on va approfondir. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, retour à l'entretien.
J'ai toujours eu une fascination pour le monde des images. Ce qu'on peut montrer au travers d'une image, des fois même sans dialogue, hein, j'aime beaucoup le cinéma muet aussi, c'est l'impact que ça a. Et ça, c'est un entraînement à l'expérience.
C'est-à-dire
que le personnage va vivre une situation, le protagoniste ou le personnage secondaire, et après c'est comment nous, ça, on l'associe à notre vie, parce que l'artiste de toute façon se sert du réel pour créer son histoire. Même quand on fait un film historique, on tord l'histoire avec un grand H pour écrire une histoire avec un petit H, mais il y a toujours quelque chose dedans, en fait, tout est politique. Que ce soit du gros blockbuster d'action qui tâche ou un film d'auteur comme La Belle et la Bête, il y a un propos. La Belle et la Bête, ça parle aussi d'émancipation féminine. L'homme barbare, brutal, qui va être aussi ramené à la civilisation. Alors, bon, c'est toujours la femme qui se coltine de ramener l'homme barbare, à bien ranger ses godasses et à arrêter de vivre tout nu dans la nature. On pourrait voir aussi une forme de sexisme, hein, aussi, là-dedans. Parce que les femmes sont cantonnées à ça, aux personnages raisonnables là-dessus. Mais néanmoins, ce sont des expériences comme ça qui aujourd'hui façonnent aussi ma vision politique des choses. Comme autre grand choc de cinéma, mais là qui est vraiment partagé, je pense, par beaucoup de gens de ma génération, c'est Jurassic Park. Et Jurassic Park a un angle politique très fort sur l'émancipation de la gente féminine. Parce que quand on regarde bien l'histoire, les dinosaures du parc, ce sont que des femelles qui s'émancipent en procréant, puisqu'on leur refuse le droit de cette liberté-là, en retournant au final, inconsciemment, mais la manipulation génétique des savants qui sont tous des hommes. Il n'y a pas une femme dans l'équipe de savants de Jurassic Park, en se révoltant contre les hommes. Et c'est ce que dit le personnage d'Ellie Sattler, l'un des deux seuls personnages féminins du film, quand elle fait sa tirade, en complétant celle du professeur Malcolm, que oui, voilà, après que... l'homme a recréé les dinosaures mangent l'homme et la femme hérite de la terre. C'est plus ou moins le propos des films Jurassic Park, parce que ce sont toujours les hommes qui y passent. Quand on regarde bien les victimes des dinosaures, ce sont que des hommes. Sauf dans Jurassic World, mais ça après, ça, c'est un autre dossier. Aujourd'hui, en fait, on est toujours dans le roman feuilleton, ça s'appelle les séries maintenant. On en est abreuvé, que ce soit donc, de la série française, américaine, asiatique. C'est une obésité de contenu artistique, au point qu'on passe plus de temps à essayer de trouver un programme sur les plateformes qu'à en regarder. Pour moi, on est à nouveau dans ce côté roman feuilleton, et donc oui, je voulais remettre un peu sur le devant de la scène des personnages français du roman feuilleton fantastique. Alors, c'est ce qu'on disait, il y a une série Belphégor là, qui est sortie sur une plateforme, alors que j'ai pas encore vu, mais auquel je vais jeter un œil. Il y a tout ce côté ce que disait Michel Foucault sur France Inter, alors il y a 50 ans de ça, dans une émission qui s'appelle Radioscopie, enfin qui s'appelait Radioscopie, mais qu'on peut trouver sur YouTube, où il parle de son ouvrage Surveiller et punir, donc sur comment la société n'est pas émancipatrice, n'est que bâton en permanence. Et où il parle donc justement des personnages de romans feuilletons, en l'occurrence donc Belphégor, Fantomas, qui sont des méchants. On met le méchant dans le rôle du héros, du protagoniste. Et Foucault explique que ça, c'est une vision complètement bourgeoise de la littérature, et que ce n'est fait que pour satisfaire la bourgeoisie. Mais par exemple, aujourd'hui, les séries qui sont un succès, sur la plateforme Netflix, par exemple, c'est la série Monstre, qui fait des portraits de serial killers américains, qui les met dans le rôle du protagoniste, qui les rend même attachants, alors que ce sont des personnages odieux. Et autant je trouve qu'il y a une très bonne réale, les acteurs jouent très bien, c'est pas la question, mais il y a 8 épisodes, et je pense que sur un film d'1h45, on disait le propos, hein. Et c'est exactement le truc qu'on peut dire à propos des romans feuilletons, hein. C'est chiant. Comme à l'époque, les journaux demandaient un certain nombre de lignes, les auteurs en fait décrivaient pour conserver l'action. C'est pour ça que des romans naturalistes, comme Germinal ou autres, il y a des descriptions à rallonge, parce qu'il faut gonfler l'intrigue. Et là, il y a 8 épisodes, qu'est-ce que vous avez à dire en fait? À part le voir, voir Ed Gein boire des ice cream soda au diner, on s'en fout. Condensé. Mais c'est comme la mode qu'il y a eu fait aussi de faire des films fleuves de 3h30 où il se passe pas grand chose. Alors j'aime bien la contemplation, hein, ça me dérange pas, mais au bout d'un moment c'est la barbe, quoi. Ça me manque un bon vieux film d'horreur d'1h20, efficace, net. Alors on y revient dans le cinéma de genre maintenant, mais c'est pareil pour les séries.
L'émission touche à sa fin, on a tout juste le temps de retrouver une dernière fois Étienne, où on parlera pêle-mêle de Superman, de punk rock et de Patrice Lelay. Vous êtes bien à l'écoute de Sur la route, retour à l'entretien.
On l'a oublié, mais le cinéma, pendant très longtemps, ça a dépendu du ministère de l'Industrie. C'est passé à la culture que depuis peu de temps. Et l'industrie, c'est produire le même produit en masse. C'est avoir au supermarché 43 marques de yaourts différentes, mais qui ont tous le même parfum, qui sont fabriqués dans la même usine. Et c'est vrai que le cinéma, c'est ça. Les plateformes, ce qu'elles proposent, c'est de l'industrie. Et au final, oui, c'est consommer, c'est faire ce que disait Patrick Lelay, donc l'ancien patron de TF1, c'est vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Parce que maintenant, il y a des pubs sur les plateformes. Je considère que si je paye un abonnement, Je n'ai pas à avoir de pub. Hein. Ça, ce serait bien, voilà, si jamais on a des députés européens qui écoutent sur la route, que l'Europe fasse passer une motion pour dire si on paye un abonnement, il n'y a pas de pub. Ça doit être clair et net. À nouveau, ce n'est que pour engraisser l'actionnaire. Et ça aussi, on en revient donc à la figure du monstre qui devient un héros, d'un personnage qui n'a pas de morale, qui devient sympathique, et qui fait passer un personnage, on va dire, bon, avec de la morale, qui pourrait être vu comme lisse, ou un perd la morale, qui est chiant comme tout, et autres. Mais les classes populaires ont de la morale. C'est la bourgeoisie qui en a pas. Hein. La bourgeoisie, ça l'emmerde, la morale. Ça empêche de faire du capital. Pour aller sur du cinéma populaire, le dernier film Superman de James Gunn, à un moment, Clark Kent a un échange avec Lois Lane, et Clark Kent dit « Mais en fait, moi, je suis punk. » Et Lois Lane lui dit « Bah non, non, t'es l'antithèse du punk. Non, je suis désolé. » Il lui dit « Si, parce qu'aujourd'hui, être gentil, être sympa, ça, c'est être punk. C'est être dans la contre-culture. » Et ce film Superman, il a été très très mal reçu. Parce que justement, Superman, c'est pas même un héros qu'on trouve chiant, parce que c'est un père la morale, c'est un boy scout. Alors là aussi, si vous trouvez que Superman, c'est un personnage boy scout, essayez de relire les premières BD du Golden Age. Parce que Superman, là, c'est un anticapitaliste qui va massacrer du patron. C'est pas la même. Hein. Donc on en revient à ça, c'est-à-dire que la bourgeoisie regarde de haut des histoires où il y a une morale, où c'est le « bien », entre guillemets, qui l'emporte. Elle préfère voir des personnages sans morale, violer la loi pour peupler les imaginaires. Hein, c'est ça qui est important dans les arts, hein, on peuple les imaginaires. Et là, pareil, je vous renvoie, auditrices et auditeurs, à une conférence de Gilles Deleuze qui s'appelle « Qu'est-ce que l'acte de création ?» qui se trouve sur YouTube aussi, où Gilles Deleuze parle justement d'art. Qu'est-ce que c'est que créer en art ? Et le peuplement des imaginaires, c'est quand on est habitué à voir dans nos séries, dans nos films, des personnages qui violent la loi, qui tout seuls changent le monde. C'est le mythe de l'entrepreneur, c'est le mythe du Golden Boy. Et aujourd'hui, dans la bande dessinée, on en est conscient. Par exemple, chez DC, donc la société qui produit Batman, Superman, etc., il y a tout un arc qui s'appelle Absolute. Et le credo des scénaristes et dessinateurs, c'est de ne plus donner la part belle aux milliardaires playboy philanthropes. Dans Absolute, Batman, c'est un prolo. Qui a pas d'argent, qui a pas de manoir, qui a pas d'Alfred, qui se débrouille tout seul. Superman Absolute, il tombe pas au Kansas, il tombe au Kenya. Et ça devient un défenseur du Sud global face aux prédations de l'Occident. Et dans le but justement de repeupler les imaginaires avec des anti-héros, on va dire, parce qu'ils ont un peu moins de morale qu'avant, mais de montrer les prédations de l'Occident, envers elle-même avec Batman Absolute, ou dans le Sud global avec Superman Absolute. Et c'est ça aussi qui est en train de changer. La bourgeoisie est en train de perdre son ascendant sur la création. D'où aussi les terreurs du wokisme, du complot LGBTQI+, les paniques morales que l'extrême droite crée très régulièrement. Il y a un très bon film, d'ailleurs, français, justement, de genre, qui s'appelle « Le pacte des loups » de Christophe Gans, qui ne parle que de ça. Le pacte des loups, c'est sur la bête du Gévaudan. Alors, le film a 20 ans, donc je me permets de révéler un peu le film, hein, mais à la fin, ce n'est qu'un complot des nobles qui n'en peuvent plus de voir les philosophes des Lumières imposer des idées nouvelles, de trucs plus égalitaires, etc., où ils perdent leur pouvoir. Essayer de déclencher une panique morale pour forcer le roi à devenir plus réac. Il y a toujours une frange de réactionnaires, influents, puissants, de vieilles familles, qui n'ont que leur intérêt propre à cœur, quitte à massacrer, voilà, dans le pacte des loups, des femmes et des enfants. Et le monde d'aujourd'hui, malheureusement, il est comme ça. Mais on peut changer les choses. Ce n'est pas inéluctable, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire.
Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Étienne pour la conversation et l'inspiration. À un entretien mené par Sébastien Roblin de l'association Résonance. Mixage et musique par Indie Grand. Si vous voulez découvrir l'émission d'Étienne, eh bien rendez-vous sur le site de Déclic Radio. Cherchez et trouvez le programme nommé « De la philo à la philosophie ». Le site de Déclic Radio est le www.declicradio.fr. Sur la route est une émission proposée par l'association Résonance dans le cadre de son dispositif Mediapop. Si vous voulez connaître l'actualité de Résonance ou en savoir plus sur Mediapop, eh bien rendez-vous sur notre site, le www.resonance.media. Résonance, R-E-Z-O-N-A-N-C-E. Sur la route, une série de portraits radiophoniques.